Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Idowani.
Wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mauni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
La corruption est mal sans remède. L'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite a publié récemment son rapport 2022. Dans le document, l'OCLEI indique qu'il a transmis à la justice de 2019 à 2022 23 dossiers portant sur plus de 23 milliards de francs CFA d'irrégularités, soit plus d'un milliard par dossier. Quelques semaines auparavant, le rapport du vérificateur général relevait des irrégularités financières de 700 milliards de francs CFA. Ces deux rapports témoignent à suffisance que le phénomène de la corruption, la délinquance financière reste d'actualité, même avec le projet Malikoura. La lutte contre la corruption est-elle devenue un mal sans remède? Comment combattre efficacement le phénomène? Nos invités tenteront de répondre à ces questions. Mariam Diaman Sanogo, présidente de la communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption, Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste, et docteur Abdoulkarim Diamoutene, enseignant-chercheur à la faculté de sciences économiques et de gestion. Je suis Imran Akilomaïga, invité, auditeur, téléspectateur, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Docteur, quelle analyse faites-vous de l'évolution du phénomène de la lutte contre la corruption au Mali?
Ok, d'abord, bonsoir à vous et également aux chers téléspectateurs. Bonsoir aussi aux co-débatteurs. Et merci pour l'opportunité de pouvoir échanger avec vous. Bon, la lutte contre la corruption au Mali, je crois que c'est... Je dirais que c'est une lutte sans résultat. Franchement, parce que quand je me souviens très bien, et avec depuis le début des rapports des vérificateurs généraux avec ATT, n'est-ce pas, qui a suscité un certain engouement, feu ATT, qui a suscité un engouement. Mais chaque année, on voit que c'est le même rapport, bon, c'est toujours le même scandale, mais sans pourtant qu'il y ait changement. Et donc, j'ai l'impression que les différentes structures de contrôle, n'est-ce pas, et dont la responsabilité consiste à lutter contre ce phénomène, n'est-ce pas, sont là pour rien. Et ce sont des structures, pour la plupart, qui sont là pour justifier des sous, pour prendre des sous. Mais en matière de résultats, le phénomène ne fait que prendre de l'ampleur au jour le jour. Donc, si je veux parler de constat, je dirais comme ça globalement. Ça, c'est l'assentiment que moi j'ai globalement par rapport au phénomène, quoi. Parce que même quand on s'intéresse un peu aux différents rapports des différentes structures, certaines structures, n'est-ce pas, d'envergure nationale qui s'intéressent à la question de la corruption, vous voyez que d'une année à une autre, ça ne change pas. Je me souviens, il y a l'INSAT, l'Institut national de la statistique, comme ça, vous comprenez, qui est l'institut, n'est-ce pas, spécialisé dans le domaine des enquêtes, etc., qui, depuis 2014, dans le cadre de EMOP, enquête modulée auprès des ménages, il y a un module gouvernance qui traite des questions de corruption. Mais quand vous voyez que ce sont les principales structures, généralement, qui sont chargées de lutter souvent même contre la corruption, qui sont indexées comme étant les principales structures. Pour preuve, je vais vous dire, en 2014, même les différentes années, l'INSAT avait estimé que 34% des Maliens, n'est-ce pas, ont estimé que la corruption est le problème le plus récurrent important dans le cadre de la gouvernance au développement au Mali. Et maintenant, ces personnes qui se sont prononcées, vous voyez, quelle est la structure qui a été indexée comme étant la structure la plus corrompue? C'est d'abord la justice. Je n'ai pas dit les juges, mais toute la chaîne de la justice, n'est-ce pas, comme première structure. En deuxième position, c'est le service des impôts. Troisième position, c'est le service de la police, la gendarmerie. Vous voyez, et tout ça après, les fonctionnaires, administration centrale, et en plus, les ministères, même encore au niveau des députés, l'Assemblée, vous comprenez? Là-bas encore, il y a la corruption qui était indexée. Et puis, il y a une proportion très élevée. Donc, vous voyez déjà que lorsque ce sont les premières structures qui sont censées lutter contre ce fléau, qu'on se rend compte que même à ce niveau, c'est à ce niveau même que souvent la corruption existe, dans ce cas, on se dit que c'est une lutte sans résultat.
D'accord. Ibrahim, selon docteur professeur Abdoulkarim Diamoutene, la lutte contre la corruption est une lutte sans résultat. Et il avance également que les différentes structures de contrôle sont sans résultat également. Quelle lecture faites-vous de cette lutte contre la corruption?
Merci de m'avoir invité. Je salue vivement les deux co-débatteurs qui sont ici et tous les téléspectateurs. Je rejoins parfaitement le docteur dans sa logique. Lorsqu'il dit que c'est sans effet, on peut le penser ainsi. Du moment où on voit que le phénomène prend de l'ampleur. Donc toute situation dont on engage la lutte qui devrait au moins s'amoindrir, si on voit que ça monte en flèche, on peut être tenté de parler de l'inefficacité de la lutte. Voilà. Donc je le rejoins parfaitement par rapport à ce niveau où on peut dire qu'on ne sent pas, c'est-à-dire les effets de cette lutte-là en tant que telle. Donc les structures visées pour la lutte de la corruption, parlant de ces structures, nous pouvons sans trop nous égarer, que ces structures sont plus dans un élan de discours plus que autre chose, parce que si réellement la lutte dite était engagée, il n'y aurait pas une amplification. Donc on allait voir ça à la baisse, mais du moment où le phénomène continue à aller de l'avant, on peut dire que les structures sont plus dans une dynamique de politique, de discours, et la pratique en tant que telle ne suit pas. Et quand il s'agit de voir même de classifier certains dossiers, et de traîner certains dossiers, on se pose des questions si réellement la volonté ferme de faire cette lutte-là est juste et équilibrée. Est-ce qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures à la limite, à des niveaux ? On peut se poser certaines questions là-dessus. Donc je le rejoins parfaitement par rapport à ce qu'il a dit. Donc c'est inquiétant. Et c'est l'heure d'agir, de réagir même vivement contre ce fléau qui est le mal dominant dans nos États africains et de surcroît nos États pauvres.
Mariam, vous êtes dans le domaine de la lutte contre la corruption. Selon professeur Abdelkarim Diamoutiné, la lutte contre la corruption est une lutte sans résultat. Il le rejoint en disant que c'est une politique de discours. Est-ce que c'est le cas?
Merci beaucoup à Sidio Tamani de nous avoir invités une fois de plus. Je tiens aussi à remercier mes co-débatteurs. C'est toujours important pour nous de se retrouver au sein de ce genre d'espace pour discuter des problèmes qui minent réellement notre société. Alors, par rapport à l'analyse que je fais de l'état de la lutte contre la corruption, au Mali. Je pense que la lutte, elle est bien entamée depuis. Cela peut être vérifié à travers la mise en place de toutes ces structures étatiques, notamment le bureau du vérificateur général, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, la cellule nationale de traitement des informations financières, entre autres, donc, qui ont été créées pour la lutte, comme un de mes co-débatteurs le disait tantôt, pour que la lutte ne soit pas un mot créé dans un livre. Aussi, il y a toutes ces organisations de la société civile donc, qui militent pour la lutte contre la corruption et de façon très participative. Et à ce stade, sincèrement, on peut dire que la lutte a eu un impact. Un impact pas à la hauteur de nos souhaits, mais l'impact est quand même là. Parce que dans un passé très récent, on ne parlait même pas de la problématique de la corruption. C'était un tabou, on n'en parlait pas. Et actuellement, on en parle. On en parle. On en parle à travers des grandes rencontres nationales, régionales, voire internationales. Donc c'est déjà un début de solution si on commence à en parler. Mieux encore, il y a eu beaucoup d'interpellations autour de par rapport à la lutte contre la corruption, surtout des auteurs convaincus des pratiques corruptives. Donc il y a eu beaucoup d'interpellations, il y a eu des arrestations. L'OCLEI, vous le disiez tantôt, à travers son rapport de 2022, a transmis des dossiers au procureur du pôle économique. Donc je pense que ces actions-là méritent d'être saluées, même si ça ne suffit pas vraiment pour qu'on soit satisfaite de la lutte contre la corruption, Mais c'est des actions qui méritent d'être saluées. Mais je tiens aussi à dire que selon l'enquête réalisée très récemment par Malimètre, c'était en 2022, donc 43% des citoyens maliens pensent que la corruption est très élevée. Et 37% pensent qu'on retrouve la corruption au sein du système judiciaire. Et 36% pensent qu'il y a beaucoup d'impunité autour de la pratique corruptive. Pour dire que beaucoup a été fait, mais le chemin reste encore relativement long. Voilà.
Vous avez bien dit que la lutte est bien entamée au regard, selon vous, de la mise en place des structures de lutte contre la corruption, aussi avec les interpellations. Pourquoi alors le phénomène peine à régresser?
Tout à fait. Je viens juste de signaler, par exemple, le fait qu'il y a beaucoup d'impunité autour des pratiques corruptives. Les causes, quand on se réfère, par exemple, aux dossiers qui ont été transmis par l'OCLEI, vous le disiez tantôt, de 2019 à maintenant, 23 dossiers ont été transmis par l'OCLEI au procureur du pôle économique. Mais jusqu'à présent, aucun jugement n'a été rendu. Donc, il y a cette impunité aussi qu'il faut combattre. Parce que la lutte contre la corruption, de mon point de vue, c'est à des sens.
Donc, vous estimez que c'est au niveau de la justice que ça ne marche pas?
Pas seulement au niveau de la justice. J'allais en venir. C'est une lutte à des sens. La prévention est un élément très important de la lutte. La prévention qu'on retrouve même dans la Convention des Nations Unies contre la corruption. La criminalisation qu'on retrouve aussi dans cette convention, dans la Convention des Nations Unies contre la corruption. Donc, il y a d'autres aspects. Il y a le recouvrement des avoirs gelés, il y a la coopération internationale. Mais je veux mettre un accent particulier sur la prévention et la criminalisation de la corruption. À ce niveau, la prévention, les activités de prévention reviennent en grande partie, pas seulement, mais je dis bien en grande partie aux organisations de la société civile que nous sommes, à travers des actions de sensibilisation, de formation, d'information, de plaidoyer. Mais pour ce qui est de la criminalisation, c'est de la répression, ça, c'est cette partie revient à l'État, à travers le système judiciaire. Donc, je pense que les organisations de la société sont en train de jouer leur partition, mais pour ce qui est de la répression, il faut qu'on se dise la vérité, il y a un sérieux problème. Parce que les dossiers judiciaires là, qui sont remis au procureur du pôle économique, après, on perd la trace de ces dossiers-là. L'OCLEI lui-même a du mal à suivre les dossiers, à plus forte raison les organisations de la société civile. Ça, c'est un problème.
D'accord. Voilà. Professeur, je voyais que vous avez été surpris lorsque Mariam parlait du rapport de Malimètre qui relevait que 43% de Maliens pensent que la corruption est très élevée.
Non, je n'ai pas été surpris, j'ai été réconforté parce que ce qu'elle a dit au début et ses conclusions, il y a une contradiction. Parce qu'elle a dit qu'il y a du résultat. Et même dit que 2022, Malimètre a fait un rapport où elle estime que 43% des Maliens estiment que la corruption est un problème récurrent au Mali. Et que 37% estiment que c'est de la justice, mais quelque chose comme ça. Donc, du coup, ça voudrait dire quoi? Il n'y a pas de résultat. Au fait, je voudrais, s'il vous plaît, vous savez, il faut qu'on sorte de l'ancien système où il s'agit d'ériger des structures sans résultat. Au fait, la lutte contre la corruption s'inscrit dans le cadre d'un système. Un système, ce sont des structures concrètes, ce sont des hommes, et c'est tout le management qui doit aboutir à un résultat. Le résultat doit être d'une année à une autre. La perception de la corruption doit baisser. La corruption doit baisser. Mais on se rend compte que quoi? D'année en année, le phénomène s'amplifie. Et maintenant, qu'est-ce que les gens font? Les structures se créent pour bouffer de l'argent. Le CLE est une structure encore de plus. Qui vient se greffer aux autres structures, mais vous allez voir, ça ne changera rien. Hein? Les gens percevront des sous, ils vont être bien payés, des missions, etc. Mais vous allez voir encore, l'année prochaine, c'est la même chose. Donc, pour moi, il ne s'agit plus, il faut rationaliser les structures. Les structures sont des structures budgétivores. Chaque fois qu'une structure est créée, il faut doter cette structure de budget.
Vous comprenez? Et moi, j'ai dit une chose. Hein. Comme je l'ai dit, j'ai voulu même un peu aller doucement. Parce que le rapport auquel je fais allusion, il est en train d'essayer de faire une hiérarchisation des différentes structures les plus impliquées dans la corruption. Ce n'est pas moi. La première structure qui est la plus indexée, ce sont les structures liées au système judiciaire. De bout en bout. Très loin. Et vient en seconde position les services liés quoi, aux impôts, au fisc. Mais quand la corruption est liée aux fiscalités, c'est-à-dire la corruption compromet le développement tout entier à tous les niveaux. Vous savez, une société, Dieu est Dieu, mais sur terre ici, c'est le système judiciaire qui est notre Dieu sur terre. Même le président de la République a peur du système judiciaire. Parce que vous parlez de quoi? Prévention, non. Lorsque, au niveau de la justice, les gens s'assument et que ceux-là qui sont coupables de corruption sont sanctionnés, les gens vont laisser. Et puis, le problème, quand je prends au niveau des impôts, mais lorsque la corruption à ce niveau, ça fait une perte énorme de recettes fiscales pour l'État. Qui dit perte de recettes fiscales dit quoi? Ce sont des dépenses en moins en matière de santé, des dépenses
Nous allons parler
maintenant,
de l'impact.
Et voilà, et maintenant, venons-en par rapport aux sociétés civiles. La société civile, s'il vous plaît, il faut que les gens changent. Hein. On connaît la société civile au Mali. Ce n'est pas pour indexer elle seulement. Hein. C'est-à-dire que quand vous regardez la gouvernance globale au niveau du Mali, à tous les niveaux, ça ne va pas. Que ce soit au niveau de la société civile, au niveau de l'administration, à tous les niveaux, vraiment, il faut que les gens changent. Ça ne va pas du tout à tous ces niveaux-là. Regardez, intéressez-vous, prenez les rapports sur la gouvernance même au sein de ces organisations de la société civile. C'est plus catastrophique même qu'au niveau de l'administration. Donc, encore, il faut qu'on dissocie deux choses. C'est-à-dire que certains rapports qui sont déposés par l'OCLE ne sont pas forcément des rapports, les ressorts ne sont pas forcément les ressorts de la corruption. Parce qu'il faut dissocier détournement des fonds et corruption. Détournement, on vous alloue un budget pour une tâche bien déterminée. Vous pouvez essayer de détourner ça à d'autres fins, ne pas l'utiliser, etc. N'est-ce pas? Mais quand il s'agit, n'est-ce pas, de soudoyer quelqu'un, etc., donc tout ça, la corruption dans ce cadre-là. Donc tous ces volumes-là qui sont, n'est-ce pas, indexés dans le cadre du rapport du vérificateur général ou même dans le cadre de l'OCLE ne sont pas forcément des résultats de la corruption. Mais la corruption, elle est partout. Quand vous partez à la mairie, la corruption y est. Vous partez à l'hôpital, la corruption y est. À tous les niveaux, la corruption y est. Vous avez vu récemment, lors des recrutements de la fonction publique, et des armées, des militaires, quand les jeunes devraient à chercher des papiers, etc. Vous avez vu quelles sont les tractations qu'il fallait. Là où vous devez débourser 1 500, on vous demande 10 000 francs. Autre chose. Donc, du coup, c'est un système qui est partout, à tous les niveaux.
D'accord. Alors, 23 milliards de francs CFA selon l'OCLEI, 700 milliards de francs CFA d'irrégularité selon le vérificateur général. Quel est l'impact de cette corruption sur l'économie nationale?
Ça tue l'économie, au fait, c'est ce que j'ai dit. Parce que essayez de voir souvent, la plupart du temps, c'est souvent où? Ce sont les secteurs sensibles. C'est-à-dire les secteurs même qui constituent généralement le support de l'économie. Parce que quand vous prenez en général nos pays, là, il y a trois secteurs généralement qui sont des secteurs vitaux. C'est l'éducation, c'est la santé, c'est le développement rural qu'on appelle globalement agriculture, là où on met assez de budget. Souvent, les détournements sont liés à quoi? Les fonds d'investissement, n'est-ce pas, pour initier les projets d'investissement en matière de santé, en matière d'éducation, en matière de développement agricole, élevage, pêche, etc. Vous comprenez? Et donc, du coup, lorsqu'il y a des détournements à ce niveau-là, vous voulez que le pays avance comment? Ça ne peut avancer. Et encore de surcroît, et un secteur qui est important dans le cas des détournements, comme vous faites allusion souvent à ces rapports-là, souvent, c'est le secteur au niveau des infrastructures. Vous avez vu aujourd'hui, je ne connais pas le fond du dossier, mais regardez aujourd'hui le problème au niveau de l'énergie. Au niveau de l'énergie. Mais allez-y demander d'année en année combien de milliards sont investis dans ce domaine-là. Mais regardez le résultat auquel nous sommes parvenus. Donc, c'est ce déficit de gouvernance-là, cette mauvaise gouvernance-là, n'est-ce pas? Qui gangrène l'ensemble des secteurs aujourd'hui. Si on vous dit des gens qui meurent aujourd'hui à cause du problème d'énergie, c'est les entreprises qui ont fermé cette année à cause du problème d'énergie, on ne peut même pas estimer. Donc, s'il vous plaît, sans la lutte contre la corruption, on ne peut rien. Même quand on construit un château, avec la corruption, tout s'écroule.
D'accord. Avant de donner la parole à Touré, Mariam voulait réagir.
Oui, je voulais réagir quand mon co-débatteur disait tantôt qu'il y avait une contradiction entre ce que je disais au début et à la fin. J'ai bien pesé mes mots. J'ai dit que je relativise. Pour que la lutte contre la corruption ne soit pas un mot créé dans un livre, il faut qu'on redouble d'efforts. Je l'ai bien dit. Ça dit, il ne faut pas qu'on jette les bébés aussi avec l'eau du bain. Nous évoluons au sein de la société civile. On n'est pas là pour faire les procès de la société civile. Ça, c'est une autre question à part. Nous évoluons au sein de la société civile et nous portons des messages d'espoir. On ne peut pas, au bout de toutes ces activités de sensibilisation, d'information, de plaidoyer, de formation, dire qu'il n'y a pas eu d'impact positif de la lutte contre la corruption. Quand lors de nos activités avec des jeunes qui nous suivent depuis 2016, un de ces jeunes vient me dire, l'autre jour, je me suis fait arrêter par un policier, mais j'ai pris tout mon temps, je l'ai suivi jusqu'à l'endroit indiqué, jusqu'à la GMS, pour qu'on me remette une quittance ou un reçu, afin que je puisse payer l'infraction que j'ai eu à commettre, au lieu de lui remettre 1000 francs pour aller vite en besoin. Pour moi, l'intégrité a un prix. C'est pour cela que je suis restée et à suivre la procédure afin que mon argent soit payé en contrepartie d'un reçu. Là, je suis sûre que l'argent irait dans la caisse de l'État. Pour moi, ça, c'est un résultat salutaire. Donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous sommes dans un processus de changement. C'est un processus, c'est très long. Donc, on ne peut pas, du jour au lendemain, voir les résultats. Sinon, je suis d'avis avec tout ce qui vient de dire, comme quoi que la corruption viole tous les droits humains, qu'il faut lutter contre avec beaucoup de sérieux et beaucoup de rigueur.
D'accord. Voilà. L'économiste a parlé tout à l'heure de l'impact de la corruption sur l'économie. Qu'en est-il du cas de la société ?
Bon, du cas de la société, ça ne s'éloigne pas trop de l'économie. Qui parle de société, tout repose sur l'économie. Voilà. Donc, elle vient de toucher du doigt quelque chose de fondamental, surtout chez nous en Afrique, l'intégrité, la dignité. Donc, je ne connais aucune ethnie ou aucune communauté malienne qui fait la promotion de la corruption. C'est en déclinaison totale avec toutes nos valeurs. Donc, prendre de l'argent pour rendre illégalement un service, ça n'a rien de digne ni d'intègre. Donc, l'une des causes principales même de ce phénomène-là, moi je dis que c'est l'immoralité. Parce que nous nous sommes trop écartés des valeurs fondamentales de la société. Donc du coup, comme j'ai eu à le dire, personne ne fait la promotion de cela. Mais pourtant, nombre d'entre nous sont tentés de le faire pour avoir gain de cause par-ci ou par-là. Donc, ça touche toutes les membranes de la société. Donc, on ne peut aller que dire qu'il faut une véritable prise de conscience à ce niveau-là. Elle a eu à dire quelque chose de fondamentalement important. Les plaidoiries qu'elles font, tout ça, ça tend à faire revenir l'être vers les fondamentaux. Les valeurs sont essentielles. Et nos valeurs, nous devons les mettre au devant pour nous écarter de certaines pratiques. Donc la corruption aujourd'hui est arrivée à un point où pratiquement ça fait peur. Sérieusement, ça fait peur parce que ça touche tous les domaines existentiels, que ça soit sur le plan religieux, même en cherchant Dieu, on fait des micmacs souvent. Voilà. Donc la corruption, on le trouve dans les églises, dans les mosquées, etc., etc. Donc, c'est devenu hors limite, à la limite. Voilà. Donc la société est touchée dans ses membres les plus sacrés. Et voilà, ça n'a rien d'intègre, ça n'a rien de digne, cette pratique. Donc il faut un retour.
Dans son introduction, Mariam a indiqué que la lutte contre la corruption a bien entamé avec la création des structures de contrôle et de lutte contre la corruption. Qu'est-ce que cette création de ces structures a servi à quelque chose? Est-ce que ça a servi à quelque chose?
C'est des initiatives, comme j'ai eu à le dire. Elle disait ce qui n'existait pas commence à exister. On veut changer. C'est un début. Mais dire que la multitude de ces structures-là a fait de telle sorte que la pratique a diminué, là est la question. Au-delà même des structures créées, moi, j'irais dire que ça a été même constitutionnalisé, cette lutte de la corruption. La nouvelle constitution, ils ont intégré la lutte contre la corruption. C'est combien dire que le phénomène est en train de nous dépasser. Voilà d'où J'explique la création de ces multiples structures. Mais je rejoins le docteur quand il dit de rationaliser en fédérant les structures. Parce que chaque structure créée, c'est un budget à part. C'est des levées de fonds. Donc, pourquoi ne pas essayer de mutualiser les efforts pour rationaliser la chose et de vraiment donner un résultat prompt et efficace? Voilà des questions auxquelles nous sommes confrontés à trouver des réponses. C'est bien de créer, mais créer pour quel résultat? D'accord. Voilà.
D'accord. Mariam, la multitude de structures a-t-elle joué de la lutte?
Oui, c'est une question qui revient souvent, de façon récurrente, hein, lors de nos échanges entre sociétés civiles, avec nos publics cibles, qui sont généralement des acteurs de la société civile aussi, mais des jeunes. Alors, moi, sincèrement, l'analyse que j'en fais, c'est que si toutes ces structures jouaient leur rôle, tel que décrit dans les textes de création, je pense que la lutte sera beaucoup plus efficace. Parce que ces structures, souvent, on confond le rôle de ces structures-là. Mais chaque structure joue, a son rôle à jouer dans la lutte contre la corruption. Ce que l'OCLEI fait est différent de ce que le bureau du vérificateur général fait. Donc, laissons chaque structure jouer son rôle. Et nous, par exemple, en tant que
mais
société civile,
toutes ces structures parlent d'irrégularité dans telle structure. Les structures sont déjà connues, les responsables sont connus. Pourquoi la lutte n'avance pas?
La lutte avance, mais c'est-à-dire les rythmes qu'on veut, les rythmes qu'on souhaite que la lutte. C'est-à-dire, les rythmes, on n'est pas satisfait du rythme. Mais on ne peut pas dépasser ce rythme-là. Il faut aller lentement, mais sûrement. On ne peut pas dépasser ce rythme-là. C'est un phénomène qui est très complexe.
Pourquoi?
C'est complexe parce que, c'est, comme on l'a dit déjà, la corruption...
Donc, on ne veut pas fermer des responsables des services parce qu'ils sont corrompus?
Non, ce n'est pas que ça. C'est complexe déjà parce que tous les secteurs socio-économiques de la vie sont concernés par la problématique. Déjà, il faut prendre secteur par secteur. Ça, c'est un travail très rigoureux.
Mais est-ce que ce n'est pas la corruption structure... au niveau des structures de l'État qui encourage cette corruption au niveau de la société même?
Ça, je ne saurais le dire, hein, parce que je n'ai pas eu un document sérieux sur... on le dit, c'est des allégations. C'est des allégations qu'on avance, mais je ne peux pas le dénoncer, le dire comme ça sur un plateau.
Il a dit, les rapports sont sans résultat.
Les rapports, je l'ai dit, le problème avec les rapports, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Les structures même qui produisent les rapports ont du mal à suivre les dossiers. À plus forte raison, les organisations de la société civile. D'après cela, je pense qu'on a créé récemment le pôle national économique et financier. Nous espérons que ce pôle aura toute la technicité en son sein, en termes de ressources humaines, en termes de ressources financières, pour traiter les dossiers jusqu'au bout. Donc, c'est déjà un début de solution. Je pense qu'on est en train de créer des solutions. Pour moi, la lutte ne peut pas aller à une vitesse que certains espèrent. On va aller doucement, c'est mieux. Voilà.
On fait sortir des rapports qu'on aura du mal à suivre. À quoi sert alors de faire sortir des rapports qu'on ne peut pas suivre après?
Ok, et vous savez, chacun de nous a une certaine expérience dans ce pays-là. Vous savez, le problème du Mali, il y a beaucoup plus ce que moi j'appelais un biais de conception. Vous entendez souvent, ils disent que les politiques sont bonnes, bien élaborées au Mali, mais c'est quasiment faux au fait. C'est-à-dire que ne confondez pas, j'ai écrit des jolis textes, c'est bien, l'agencement est bien, et adapté. Il faudrait que les politiques soient adaptées à ce que nous voulons, notre aspiration. Vous savez, quand elle dit quelque chose, que ce rythme ne peut pas dépasser ce rythme, ça c'est selon sa perception des choses. Si, mais ce qui n'est pas correct,
Ça voudrait dire que si nous réformons, nous trouvons des structures adaptées, on s'interroge. Parce que imaginez, je prends un exemple comme Leclerc. Parce qu'au fait, dans le débat, elle se focalise beaucoup plus sur les structures. Nous sommes en train de parler du système. Quand vous parlez du système, Leclerc est un élément du système, comme le système judiciaire est un élément du système. C'est cet ensemble-là qui lutte contre la corruption. Vous comprenez? Parce que chacun a son niveau. Mais dès lors qu'il y a un segment, un pan de la chaîne qui ne marche pas, tout le système s'écroule. Maintenant, il s'agit maintenant que l'ensemble des acteurs, parce que c'est que, au fait, l'ensemble des acteurs, ça c'est. Le problème qu'on pose au Mali, qui est mal posé souvent, on a l'impression que le problème de lutte contre la corruption est un problème spécialisé des juristes, des hommes de droit. Or, la corruption est un problème de la société. Donc, ce qui fait que, même quand il s'agit de voir quelle est la démarche, quelles sont les structures les plus adaptées en matière de réforme, on appelle seulement les gens de droit, les gens qui ont travaillé seulement dans ce domaine-là pour réfléchir, pour nous proposer quelque chose. Ça ne marchera pas! Ça ne marchera pas du tout. Mais quand on s'assoit, on peut même rationaliser. Vous savez, l'OCLA a été créé à la suite de quoi? Peut-être qu'il y a eu des gens qui ont effectué des missions, peut-être un petit rapport, ils sont venus, ils ont su convaincre, peut-être décider en son temps pour dire la pertinence de la création de l'OCLA, donc on crée. Ça ne se crée pas comme ça. Moi, je suis planificateur. Au-delà d'être économiste, je suis planificateur. Je sais comment les structures et les trucs se créent. On les crée sur la base, n'est-ce pas, des objectifs, des résultats attendus. Et on analyse la pertinence de chaque structure dans une approche systémique. Mais au Mali, cette démarche-là n'est pas trop prisée au Mali. Donc, c'est sûr que moi, je voudrais que les gens comprennent. Au Mali, revenons, asseyons-nous l'ensemble des couches. Parce que la corruption n'est pas seulement une question de droit. C'est comme l'erreur qu'on avait commise récemment. Quand il s'agissait de travailler la Constitution, on pensait que c'était l'affaire des juristes. Et chaque fois seulement, on donnait aux juristes. Or, la Constitution touche tout le monde. Vous comprenez? Donc, la corruption aussi, c'est comme ça. Nous devons voir. Comment lutter contre la corruption?
Nous allons parler des moyens de lutte contre la corruption, mais à ce rythme, est-ce que le Mali Coura n'est-il pas un vœu pieux?
Ce qui est certain, le Mali Coura, sans système judiciaire et clean bien, le Mali Coura, ce serait de l'utopie. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est qu'il faut séquentialiser d'abord les objectifs. Les objectifs, d'abord, il y avait des questions d'ordre sécuritaire, même quand tu t'attaquais au problème de justice, d'énergie, etc., les gens t'écoutaient parce que c'était une priorité d'abord absolue. Vous comprenez? Mais même le système de défense qu'on vient de bâtir, si on n'arrive pas à asseoir un véritable système de lutte contre la corruption, de système judiciaire de lutte contre la corruption, etc., même le système de défense qu'on vient d'asseoir va s'écrouler. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'aucun pays ne peut marcher tant que le système judiciaire n'est pas à mesure, n'est-ce pas, d'être juste, de dire le droit, de mettre les gens dans leurs droits. Et donc ça, c'est du ressort du système judiciaire. Donc le Mali Coura, oui. Parce que regardez, comment vous pouvez lutter contre la corruption au niveau de la fiscalité des impôts, au niveau de l'EDM, dans les différentes structures, tant que les responsables, n'est-ce pas, ne sont pas sanctionnés comme il le faut. Étant donné que les rapports en amont sont déjà là. Pourquoi créer une autre structure, étant donné que chaque année, les rapports de Vigal sont là? Et il y a un autre problème qui est au Mali, qu'il faut indexer, c'est qu'il faut que les autorités apprennent à parler au peuple. Je vais vous dire une chose. Depuis plus de 10 ans, il y a des rapports. Mais dans le cas du suivi de ces rapports-là, quel est le sort qui a été réservé au traitement? Qui a informé de ça? Personne n'est au courant. On a l'impression que le problème de corruption, n'est-ce pas, son traitement est une affaire d'initié. Peut-être soit le premier responsable, les hommes de justice qui sont concernés par ça, peut-être les éléments de la société civile, qui veulent coûte que coûte voir comment on ne peut pas leur cacher, étant donné les différentes missions, on les fait voir. Mais le problème au niveau de la société, personne. Et regardez aujourd'hui le débat autour de l'EDM, c'est la même chose. Vous voyez déjà, les Maliens dans leur majorité sont perdus, personne ne sait où se trouve la vérité. Mais pourtant c'est une question de société qui en concerne tout le monde. Donc le problème de lutte contre la corruption, il faut qu'on aide dans ce sens. Ce n'est pas un problème d'initié de quelqu'un. C'est un problème qui concerne l'ensemble des sociétés. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, une véritable assise autour de ça et que l'ensemble des acteurs soient impliqués, que ce ne soit pas forcément les acteurs du système judiciaire.
D'accord. La lutte contre la corruption, Touré, est-il un moyen pour les régimes en place de faire taire les opposants politiques?
Bon, on peut penser cela parce que lorsque, généralement dans nos États, il y a de ces situations où on se retrouve dans une transition, il n'est pas écarté de voir des cas comme ça. Malheureusement, ça existe. Dire que je vais me mettre à citer des exemples concrets, pas du tout. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais il se pourrait que les transitions comme on a l'habitude de les voir, c'est des règlements de compte aussi. Bon, bref, étant donné, on peut quand même dire que le phénomène de la corruption, madame disait dans ses interventions qu'il y avait un problème. Un problème, moi je suggérais le problème surtout au niveau de la lenteur du traitement des dossiers. Surtout lorsque ces dossiers-là arrivent au niveau de la justice. Il y a un sérieux retard. On peut interpeller ou appréhender quelqu'un, le mettre sous mandat de dépôt, au fin d'investiguer, de chercher d'amples de preuves, et la procédure va traîner. Ça, c'est un véritable souci. Donc, beaucoup de gens sont aujourd'hui sous les verrous, mais les cas traînent. Les jugements ne se font pas, les enquêtes ne sont pas bouclées. Bien vrai que la législation encadre les mandats de dépôt, mais moi, de mon point de vue, il faut revoir cet aspect-là. Donner un élan pour que les dossiers soient un peu accélérés du côté de la justice. Non seulement si la personne venait à être déclarée coupable, que la personne soit condamnée. Et dans le cas échéant, si la personne est innocente, qu'elle soit tout simplement relâchée. Bon, le fait de mettre quelqu'un au Mali sous mandat de dépôt et qu'après la personne est innocente, donc il n'y a aucun dédommagement. Imaginons quelqu'un qui passe deux ans sous mandat de dépôt, qu'on le relaxe, soi-disant qu'il n'y avait pas de preuve, qu'il n'avait rien détourné. Il a perdu 2 ans banalement de sa vie. Donc, d'où la nécessité d'accélérer le processus. Au-delà aussi, la corruption touche plus, c'est-à-dire on s'approche plus des fonds, de l'argent. Donc, en lieu et place, pourquoi ne pas faire comme certains pays où on règle la question, tu es soupçonné d'être en infraction pour faire de corruption, pourquoi ne pas essayer de trouver un arrangement entre la justice et la personne en moratoire pour restituer les fonds pris, au lieu de prendre une personne, de mettre la personne sous mandat de dépôt. Donc, moi, je pense qu'il faut plus viser à recouvrer ce qui a été détourné ou ce qui est parti. C'est plus important que de prendre des gens et de les mettre sous les verrous. Bien que le message, la répression est là pour lancer un message que la pratique n'est pas bonne, mais je pense que l'État devrait penser plus à ses intérêts qui n'est rien d'autre que vraiment l'argent dans ses caisses.
Diamoutene parlait tout de suite, il évoquait quelques pistes qui pourraient limiter la corruption. Alors, comment mener une lutte efficace contre la corruption et la délinquance financière?
Bon, elle l'a dit, dans leur pratique, elles ont les méthodes appropriées. D'abord, il faut une prévention. La prévention, elle passe par la sensibilisation des populations. Il faut que chacun comprenne que c'est quelque chose qui peut conduire en prison. Et c'est quelque chose qui détruit notoirement le pays, qui affaisse le pays dans plusieurs domaines, que ce soit la santé, que ce soit l'emploi, l'entrepreneuriat. Donc ça affaisse tous ces volets de la société. Si on crie qu'on n'a pas d'emploi, c'est parce que quelque part, une personne a pris la part de 100, voire 1000 personnes. Si on voit que les centres de santé ne sont pas adéquats pour traiter, soigner les gens, c'est parce que une seule personne peut bouffer la part de 10 000, 20 000 personnes. Donc il faut que les gens comprennent que l'impact de ce phénomène est négatif sur la société. Donc de revenir aux fondamentaux et de se dire que dès qu'on détourne, dès qu'on prend, on touche, c'est-à-dire au bonheur, et à l'épanouissement de plusieurs autres personnes. Donc ne soyons pas égoïstes à ce niveau. Au-delà de la prévention, comme je viens de le dire, la justice doit jouer véritablement son rôle. C'est-à-dire le rôle de vraiment veiller à accélérer les dossiers, à ne pas être sélectif dans le choix des dossiers, à vraiment réprimer qui de droit, et vraiment de relaxer aussi ceux-là qui ne sont pas coupables. Donc c'est tout un ensemble qu'il faut mettre en place pour arriver à vraiment combattre ce fléau.
Mariam, suite à ces enquêtes, l'OCLEI a identifié 503 biens immobiliers présumés illicitement acquis, à savoir 124 maisons d'habitation, 29 bâtiments commerciaux ou professionnels, 285 parcelles et 65 concessions rurales totalisant 181 hectares. Cela témoigne-t-il une certaine complicité?
Complicité entre qui?
Entre les acteurs?
En fait, ça, l'OCLEI, à travers son pôle d'investigation, fait ses rapports en dénonçant ces biens mal acquis. Donc, dire qu'il y a une complicité, je pense que déjà que l'OCLEI arrive à avoir ces informations, c'est pour permettre à ce qu'on constitue un dossier, éventuellement un dossier judiciaire, pour que la personne soit poursuivie et voit éventuellement si elle est coupable des pratiques corruptives, qu'elle soit punie conformément à la loi. Je pense que le but final de la démarche, c'est un peu cela. Maintenant, quand mon co-débatteur parlait tantôt de trouver un moratoire avec ces personnes-là qui ont mal acquis tous ces biens pour qu'elles restituent les biens, je trouve que l'État est déjà dans cette dynamique à travers la création de l'Agence nationale de recouvrement des avoirs saisis ou gelés. D'accord. Voilà, donc c'est une agence qui n'est pas opérationnelle, mais elle a quand même été créée. D'accord. Voilà.
Les personnes concernées par ces 23 dossiers proviennent de différentes couches socio-professionnelles, notamment le gouvernement, élus, administration générale, administration financière, justice, armée, affaires étrangères, établissements en public. Est-ce que ceux-ci peuvent être inquiétés?
Bien sûr, nous sommes dans un état de droit.
Ceux de l'administration.
Nous sommes dans un état de droit. Le Mali est un état de droit où les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes règles de droit. Donc, quiconque se rend coupable de la violation des textes doit être poursuivi. Il n'y a pas de limite à la règle de l'impunité, surtout avec la nouvelle constitution. Avec la nouvelle constitution, il a dit, la lutte contre la corruption fait partie du bloc de constitutionnalité, parce qu'on retrouve même dans les préambules de la constitution, et puis ça devient un crime imprescriptible. Donc, quiconque est convaincu des pratiques corruptives doit être poursuivi du moment où son dossier est transmis par la structure adéquate au procureur du pôle économique.
Voilà. Je le disais tout de suite, les personnes concernées proviennent du gouvernement, élus, administration générale, administration financière, justice, armée, affaires étrangères, établissements en public. Est-ce que ces personnes peuvent être inquiétées?
Théoriquement, elles doivent être inquiétées. D'abord, même le fait de dénoncer, le fait qu'il y ait un acte, n'est-ce pas, qui les désigne, déjà, c'est une menace. D'abord, une atteinte d'abord à leur honneur. Et sûrement, forcément, ils vont banquer. Ils vont payer quelque chose.
Mais on me fait signe qu'il nous reste 2 minutes.
Oui, j'ai compris. Mais, OK. Maintenant, je voudrais revenir sur une mesure. Vous savez, on ne pourra pas lutter contre la corruption au Mali tant qu'on ne réforme pas l'administration. C'est l'administration qui est au-delà de tout ça. Vous imaginez le percepteur des impôts. On le corrompt. Comment? Il faut réformer pour que ce dernier puisse ne pas être corrompu. Quand monsieur part pour des actes administratifs au tribunal, etc., il faut réformer, vous comprenez, à tous les niveaux. Même le secteur privé, pour avoir, n'est-ce pas, une autorisation quelque part, il faut passer par-ci, par-là. C'est l'administration qui, bien que sa taille soit réduite, c'est elle qui est chargée de superviser. Et tant qu'elle n'est pas réformée, impossible de lutter. Donc pour moi, ces gens seront forcément, je me dis, mais je ne sais pas quelle est la suite. Parce que sur le Mali, c'est comme ça, on dénonce, mais après, on ne sait pas quelle est la suite réservée. Ça devient maintenant quelque chose d'initié. Seuls les décideurs, certaines personnes sauront quel est le traitement définitif qui a été réservé à ce dossier.
D'accord. En 30 secondes, la lutte contre la corruption est-elle devenue un mal sans remède?
Bon, on peut le dire, mais voilà, à tout mal, on peut trouver un remède. Je pense que des idées ont fleuri ici. Il vient de parler de réforme. Moi, je dirais la plus belle des réformes, c'est d'informatiser, c'est-à-dire l'administration, pour limiter le contact ou l'échange de l'argent liquidité entre les gens. D'accord. Si les opérations se font de façon...
Malheureusement, le temps ne nous permet pas de continuer. Ainsi se referme ce grand dialogue qui réfléchissait sur la corruption et mal sans remède. Et nous étions avec Mariam Diamant Sanogo, présidente de la communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption. Ibrahim Ben Mamata Touré, juriste, professeur Abdul Karim Diamoutene, enseignant-chercheur à la faculté de sciences économiques et de gestion. Je suis Branakilo Meiga, à la régie vidéo et mise en onde à Diaratou Traoré et Ibrahim Sanogo. Merci de l'avoir suivi. À demain pour un autre débat.